utilisé rapidement, indique un communiqué.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Meilleurs vœux fidèles auditeurs de VOA Afrique et bienvenue dans l'Amérique et vous, la première édition de 2021. Eric Manilakiza en votre compagnie, Michel Claire-Joseph assure la mise en onde. Ce soir, nous revisitons certains événements clés qui ont marqué l'année dernière et qui ont sans doute eu un impact sur l'Afrique. Il s'agit notamment des faits divers connus ici aux États-Unis ou des décisions prises par l'administration de Donald Trump. Nous les décortiquons dans un instant avec nos invités. Au pays de la Teranga, Ibrahima Khan, bonsoir.
Bonsoir.
Tous dans le même bateau, n'est-ce pas?
Et on espère que l'année qui commence va être en tout point meilleure que celle qui s'achève.
Merci d'être là. À Atlanta, en Géorgie, se trouve un des fils du pays des hommes intègres. Ismaël Diallo, bonsoir.
Bonsoir, comment va?
Ça va très bien. Prêt à défendre l'honneur, la patrie ou la mort, c'est ça ou c'est un vieux slogan?
Tout le temps et à jamais, quels que soient les hauts et les bas.
Dans le Minnesota, à Minneapolis, Shérif Keïta, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Merci de partager.
C'est le pays des 10 000 lacs.
C'est ça, merci de partager dans cette édition les connaissances puisées au pays mandingue. Vous symbolisez, oui. C'est paraît-il.
Absolument, absolument. On dit que le mandé est une pirogue qui peut tanguer mais qui ne chavire jamais.
Absolument, absolument.
Bienvenue à vous tous et meilleurs voeux encore une fois pour 2021.
Merci Eric.
Merci, merci beaucoup Eric.
La présidentielle aux États-Unis est devenue un événement mondial et très suivi par les Africains. Le 3 novembre 2020, on a vu l'importance du vote afro-américain. Ismaël Diallo, l'électorat noir a été au cœur de l'attention des candidats démocrates et républicains.
Oh oui, absolument. Il faut dire que très souvent, et cette fois-ci plus qu'avant, la participation des Africains-Américains a été déterminante et va être déterminante le 5 prochain pour les élections sénatoriales en Géorgie.
Le 5 janvier.
En janvier, oui, le 5 janvier.
Shérif, quoique cette minorité noire soit minoritaire, la communauté noire a beaucoup séduit et devient désormais un enjeu majeur pour les prochaines élections.
Ah oui, certainement, certainement. Ben, à partir du Minnesota, l'État qui... Subitement, cet été, s'est retrouvé à la une partie dans le monde. Le Minnesota est traditionnellement un État dont on n'entend pas beaucoup parler. Alors malheureusement, avec l'assassinat de George Floyd...
On va y arriver.
Voilà, je crois encore une fois que la communauté noire s'est mise sur la scène et a fait bouger la chose, voilà.
Ismaël Diallo, le président élu Joe Biden a même reconnu qu'il a été élu grâce à l'électorat. C'est d'ailleurs avant même la présidentielle du 3 novembre, depuis les primaires en Caroline du Sud.
Oui, vous vous souviendrez qu'il était très loin dans les sondages et en quatrième ou cinquième position dans les intentions de vote des primaires démocrates. Il était très loin. Et il a fallu que le congressman Jim Clyburn de la Caroline du Sud, justement, fasse un discours pour l'appuyer et appeler à voter pour lui, qu'il remonte de manière spectaculaire aux élections des primaires de South Carolina, de la Caroline du Sud. Et c'est à partir de ce moment qu'il est allé en tête de liste des démocrates. Donc c'est vraiment l'électorat noir de la Caroline du Sud et des autres États successivement qui l'ont remis en selle. Personne ne peut nier cela, à commencer par lui.
Et on a vu même le 3 novembre, les États clés ou les États pivots comme on les appelle, c'est dans des localités où il y a une forte concentration des Noirs où Joe Biden a pris beaucoup de voix qui ont fait passer.
Oui, absolument, absolument. Et, mais là, ce n'est pas un chèque en blanc que les Africains américains lui donnent. C'est un contrat social, un contrat politique, un contrat humain. Ça veut dire qu'il doit renvoyer l'ascenseur. Et ils sont en train vraiment de le suivre à la trace pour savoir s'il va renvoyer l'ascenseur ou non.
Ibrahima Kan, la presse africaine a surtout questionné le modèle de la démocratie africaine.
Oui, vous savez, quand on suit ce qui se passe aux États-Unis, on a l'impression qu'on est en Afrique, ou en tout cas qu'on est dans une place où on n'arrive pas jusqu'à présent à faire accepter les résultats, même s'ils sont clairs, par le chef de l'État sortant. Donc, et ce n'est pas la première fois. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, il y avait des élections, je pense que c'était en Floride, où on avait accusé certains partis d'avoir organisé une fraude massive. Je pense que ce que l'élection américaine a révélé cette fois-ci, c'est que, au fond, la démocratie, en tout cas telle qu'elle s'exprime, c'est presque la même chose un peu partout. Il y a des degrés dans l'acceptation, dans, comment dirais-je encore, la transparence, mais que, quant au fond, quand les acteurs ne sont pas des démocrates, on ne peut pas avoir des élections démocratiques. Et ça, je pense que maintenant, tout le monde sait que c'est universel, c'est un problème universel. Et merci à Trump d'avoir permis de révéler cela dans l'une des démocraties les plus anciennes du monde.
Mais on a vu à une institution judiciaire non influençable par le pouvoir exécutif.
Oui, vous savez, aux États-Unis, et cela est au crédit de ce pays-là, malgré la présence à la tête du pouvoir de personnes qui ne sont pas très très démocratiques, on a des institutions fortes qui ont été capables de faire respecter la loi et qui ont été capables de montrer à l'opinion internationale qu'un État repose sur un certain nombre de piliers. Le président en est un, mais la justice est centrale à tout cela, et puis aussi le Parlement joue son rôle, parce que si la justice avait servi à ce niveau-là, on se serait retrouvé dans une situation inextricable. Mais heureusement que ceux qui sont à la tête de la Cour suprême ont montré des qualités vraiment extraordinaires pour s'en tenir au respect de la loi et au respect de la Constitution des États-Unis. Et ça, c'est déjà un très bon point pour la démocratie elle, américaine pour le futur.
Suivez l'Amérique et vous, Eric Manirakis avec vous. Nous parlons de certains événements qui ont marqué l'année 2020 ici aux États-Unis, mais qui ont un impact sur le continent africain. L'administration Donald Trump a pris des mesures historiques, notamment la levée du Soudan sur la liste noire, la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ibrahima Kan, ça a été des mesures surprises.
Une surprise, pas tout à fait pour ce qui concerne le Soudan. On savait que depuis qu'il y a eu le coup d'État, et même du temps de Omar al-Bashir, il y avait déjà des négociations qui étaient en cours entre le Soudan et les États-Unis, à son entremise de l'Arabie Saoudite et de ses alliés du Golfe pour faire sortir le Soudan. Donc, le départ de al-Bashir a accéléré, pour ainsi dire, le processus qui a abouti maintenant à enlever le Soudan de la liste des États bandits ou des États, en tout cas, terroristes. Mais pour ce qui concerne la question du Sahara occidental, c'est une véritable surprise. D'abord, parce que les Américains, par le passé, ont toujours agi dans le respect des principes de l'Union africaine, et les États-Unis ont toujours fait montre sur l'affaire du Sahara occidental une certaine neutralité, même si le Maroc est l'un des alliés les plus puissants de l'Amérique sur le continent. Alors, tout le monde sait que ce rapprochement et cette décision américaine de considérer le Sahara occidental comme partie intégrante du Maroc est une décision qui a été prise pour favoriser, développer les relations entre Israël et certains pays africains. Mais cette décision en tant que telle pose de sérieux problèmes sur le continent, et je ne suis pas sûr que l'administration américaine va continuer à faire respecter cette décision du président Trump. Pour deux raisons principales. La première raison, c'est que la République arabe sahraoui démocratique qui revendique le territoire en question est un État membre de l'Union africaine. Et le Maroc a accepté de retourner à l'Union africaine en respectant cette règle que la République sahraouie est un État membre de l'Union africaine. Donc, dire que la République arabe sahraouie n'existe pas, c'est vraiment piétiner tous les principes, les décisions et règles de l'Union africaine. Ça, c'est un. Deuxièmement, mais ça met aussi le Maroc dans une situation intenable sur le continent. Parce qu'on va se retrouver dans un contexte où, mais à toutes les réunions, cette décision va faire l'objet d'une critique au niveau du sommet. Je vous assure que le prochain sommet de l'Union africaine qui va avoir lieu au mois de février va être l'occasion d'une critique de tir complet contre le Maroc et contre les États-Unis sur cette question parce qu'il y a des États pratiquement puissants, l'Afrique du Sud, le Nigeria, qui sont pour le principe de l'autodétermination des peuples et qui, par exemple, en Afrique du Sud, qui soutiennent diplomatiquement le Polisario qui revendique l'indépendance. Et donc, on va se retrouver, encore une fois, avec un autre problème qui n'avait vraiment pas réussi de retrouver sur la table au niveau d'Addis par le simple fait, par le simple, comment dirais-je encore, simple action des États-Unis qui n'ont vraiment pas pesé le pour et le contre avant de prendre cette décision. Et ça, je trouve que c'est dommage pour les États-Unis. Et j'espère que la nouvelle administration qui entend pratiquement corriger toutes les erreurs et toutes les bêtises, entre guillemets, de l'ancienne administration Trump, va vraiment s'atteler à régler ce problème. Parce que autrement, ça va créer une situation de crise entre les États-Unis et l'Afrique. Et les États-Unis n'ont pas intérêt à être en crise avec l'Union africaine parce que l'Afrique et les États-Unis sont partie prenante dans beaucoup de luttes, la lutte contre le terrorisme et beaucoup d'autres questions qui concernent cette planète. Et c'est ça qui mérite l'intérêt, l'énergie des uns et des autres plutôt que ces questions qui sont complètement dépassées en moi.
Ismaël Diallo, est-ce que vous voyez les mêmes difficultés?
Je vais un peu différer peut-être parce que j'aurais été américain et avec le droit de vote que je n'aurais pas voté pour Trump, évidemment, en 2016 et en 2020. Mais je ne suis pas fâché que Trump ait été président des États-Unis pendant au moins 4 ans. Parce que c'est le seul chef d'État qui a osé sortir du rang, qui a osé abattre les masques, sauf peut-être concernant la Russie. Mais c'est le seul chef d'État qui, concernant le Moyen-Orient, a cessé cette politique de vouloir une chose de son contraire, de prétendre être un intermédiaire honnête et à mi-chemin entre Israël et les pays arabes. Ce qui n'a jamais été le cas. Lui, au moins, très clairement et très vite, a pris parti. Il a dit « Je suis avec Israël, les Arabes, venez ». Si vous ne voulez pas, tant pis. Et sa politique a réussi parce qu'il a amené les pays arabes à rentrer dans le rang. Tous n'y sont pas pour le moment, mais ce n'est qu'une question de temps. S'il restait encore pour 4 ans, tous allaient se mettre en rang, je présume, à l'exception peut-être d'un ou deux. Mais au moins il a été clair. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Ça veut dire au moins que il a fait bouger les lignes et c'est plus clair, au moins. Concernant le Maroc, les Sahraouis, l'Algérie, même si elle ne veut pas qu'on la cite dans ce chéquier-là. Là aussi, Trump a voulu quelque chose de clair. Il a voulu que les relations entre le Maroc et Israël soient au beau fixe. Et il y avait un prix à payer. Et il a payé le prix. Ça a arrangé le Maroc. Et le Maroc également est entré dans le jeu. Israël, n'en parlons pas. C'est la réelle politique. Qu'est-ce qui se passera après janvier, le 20 janvier, qu'est-ce qui se passera dans 2 ans, dans 3 ans? On verra bien. Mais au moins, ça a un avantage, c'est de faire bouger des lignes. Et c'est ça que doit être la politique et l'histoire. Il ne faut pas rester dans un statu quo qui embarrasse tout le monde, qui ne satisfait personne. Là est la question. Et c'est ce qui est dommage avec nous en Afrique. On parle de panafricanisme, on parle de fraternité, de coopération, on fait des unions. Mais sur le terrain, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Aujourd'hui, pour qu'un Togolais, quand un Togolais part du Togo pour aller au Sénégal, qu'est-ce qu'il n'a pas comme difficulté alors que nous avons la libre circulation des personnes et des biens? Il faut qu'on sorte de ce mensonge entre nous, de ce faux-semblant et qu'on soit réel. Malheureusement, les politiques et les administrations ne jouent pas le jeu. Et encore une fois, et enfin, je reviens pour dire que les partis politiques, la société civile, les intellectuels ne font pas leur travail. Quand les chefs d'État se préparent à aller en sommet, qu'est-ce qu'ils apportent comme point à leur vue? Ils discutent des deux tiers du temps de questions pour lesquelles ils n'ont aucun impact, aucun bargaining power. Ils se trouvent des choses pour lesquelles ils peuvent changer les choses. Enfin, j'étais à un sommet des chefs d'État à sommet. En 1999, et Obasanjo, président du Nigeria, a tapé le poing sur la table en disant « Mais écoutez, nous avons signé des accords pour qu'il y ait la libre circulation des personnes et des biens. Et aujourd'hui encore, entre Lagos et Lomé, les gens se font arnaquer. Il y a la corruption partout, la police, la gendarmerie, les douanes, etc. » Que faisons-nous? Voilà les vraies questions qui nous concernent aujourd'hui. Et enfin, avec la Covid, les aéroports en Afrique sont ouverts, mais tenez-vous bien, je ne sais pas pour les autres parties de l'Afrique, mais en Afrique de l'Ouest, les frontières terrestres sont fermées. Alors ceux qui voyagent en avion peuvent voyager en présentant des tests, mais ceux qui voyagent par la route ne peuvent pas passer les frontières. Quelle incongruité! C'est une stupidité, simplement.
On va dire un mot sur le Sahel, la présence militaire américaine, le Pentagone qui a voulu réduire sa présence, Ibrahim Akane, des conséquences éventuelles.
Nécessairement, vous savez, je n'ai pas compris cette décision américaine de réduire les forces qui étaient basées au Niger. Et puis surtout que cette décision soit prise à un moment donné où les forces alliées des États-Unis décident d'augmenter même le nombre de leurs troupes pour faire face à un ennemi qui est devenu beaucoup plus efficace sur le terrain et qui est devenu insaisissable. Et vous savez que l'armée américaine aidait dans le renseignement et aidait aussi dans les tirs de précision, surtout en utilisant les troupes. Donc vous voyez que cela, pour moi, montre le peu de considération que les Américains ont pour les Africains. Et ils ont pris une décision similaire en Afrique de l'Est, surtout pour les troupes qui étaient présentes en Somalie, qui servaient aussi à vraiment réduire la force de frappe et Al-Shabaab dans cette région. Alors, si de telles décisions doivent être prises, elles doivent être prises en consultation avec les États et en consultation avec les alliés. Mais c'est un bon matin qu'on a entendu que Trump avait décidé de réduire toutes les forces des États-Unis qui sont à l'extérieur, de l'Afghanistan au Sahel, et ainsi de suite. Tout cela vraiment pose des problèmes de cohérence, pose des problèmes d'action, encore que, d'une certaine façon aussi, c'est bien fait pour nous. Parce que si nous nous battons pour redorer notre blason, pour défendre l'intégrité de notre territoire, nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. On est dans une réalité où, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, on avait des armées complètement faibles, pas très bien préparées pour gérer ce genre de situation. On avait également besoin de soutien. Et ce soutien-là nous a été accordé pendant un certain temps. Et au moment où on en avait le plus besoin, on perd cela. Donc, encore une fois, la diplomatie à la Trump, vraiment, c'est pas une chose qui a vraiment aidé les Africains à faire avancer leur cause. Au contraire, ça a complètement mis sens dessus dessous un certain nombre de situations et ça a vraiment bloqué les actions que les Africains voulaient mener pour apporter plus de sécurité sur leur territoire et sur leur région. C'est dommage.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
L'avenir, c'est du passé en préparation. Je ne fais que citer Pierre Dac. Quelle leçon tirez-vous individuellement, Ismaël Diallo?
Vous savez, j'aurais été à la place des Français, des Américains et de tous ceux qui interviennent dans le Sahel, que nous aurions pris une position commune et nous aurions dit aux pays du G5 Sahel, nous vous donnons 9 mois pour vous mettre ensemble et envoyer vos troupes au front, en avant, et mettre vos opinions publiques au diapason pour se mettre toutes debout contre le terrorisme. De toute façon, dans 9 mois, nous partons. C'est tout. Parce qu'il est grand temps qu'on nous oblige à nous mettre en face de nous-mêmes. Il est grand temps. Je le répète, nous voulons une chose et son contraire. Nous sommes prêts, surtout les jeunes, à fustiger la France, l'impérialisme, l'Occident et les autres. Mais que faisons-nous nous-mêmes pour nous libérer, pour nous assumer, pour nous mettre debout? Que faisons-nous? Nous savons simplement parler haut, avoir le verbe haut, et ça s'arrête là. Alors je trouve que le monde en dehors de l'Afrique est encore très, très accommodant en ce qui nous concerne. Mais le temps viendra où cela va s'épuiser de nous aider en vain. Et il faudrait que les générations entendent, comme on dit, donc c'est pas bon dans les époques, mais il faudrait que ces générations s'apprêtent à faire ça.
Monsieur Khan, les leçons à tirer?
Cette édition de l'Amérique et vous, Ibrahim Akane au Sénégal, Ismaël Diallo à Atlanta et Chérif Keïta à Minneapolis. Merci de vos contributions. Merci également aux auditeurs. Merci à Michel Joseph qui a assuré la mise en onde. Eric Magrakidza vous souhaite une heureuse année chez vous. À la prochaine.
À la prochaine et bonne heureuse année à vous aussi et aux auditeurs.